Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Henri Justin, qui publie Avec Pau, jusqu'au bout de la prose, chez Gallimard, dans la Bibliothèque des idées. Est à son plus vivant dans ses textes où il fait le mort. Longtemps, Henri Justin, vous avez enseigné la littérature britannique et américaine. Et dans cette spécialité, vous avez une spécialité qui a un nom, Edgar Allan Poe, un écrivain à qui vous avez consacré plusieurs livres.
Deux livres et beaucoup d'articles.
Et ça a été un vertige, la découverte de cet écrivain ?
Pas exactement, ça a été un choix conscient. J'avais une thèse à faire, j'étais dans le supérieur, je m'intéressais beaucoup à Keats, poète romantique anglais, donc j'étais passionné par Keats, qui me touchait vraiment très profondément. Et j'ai regardé un petit peu, j'étais un petit peu jeune, j'ai lu quelque chose, j'ai dit oh là là, tout a été dit, c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose sur Keats. Et puis, bon, il s'est trouvé que j'ai eu à enseigner Poe. Et bon, je l'avais un peu lu avant, évidemment.
En anglais ?
Enseigner Poe en anglais. Je l'avais peut-être lu avant un petit peu, même sans le savoir, en français. Mais enfin, étant beaucoup plus jeune. Mais oui, j'ai eu à l'enseigner en anglais, puisque je suis angliciste. Et donc, ça a toujours été littérature anglaise et américaine dans le texte. Hein. Et je me suis aperçu qu'au fond, Poe faisait ce que je voulais faire avec Keats, c'est-à-dire... Il reprenait le romantisme, il arrivait trop tard, il aurait voulu être poète. Dommage, c'était fait. Admiration immense pour Keats, pour Shelley aussi, même pour Byron au début. Admiration pour Coleridge. Et s'essayant à la poésie, voyant qu'il n'en était pas vraiment capable pour un certain nombre de raisons, à la fois historiques mais aussi sans doute personnelles, il me semble, c'est ma lecture de Poe, il s'est exilé dans la prose sans renoncer à l'aimantation poétique de son travail. Ce qui fait que, dans ma lecture, il construit à travers ses fictions une structure de l'expérience romantique. Il structure l'expérience romantique. Et donc, je me suis dit, ben voilà, le travail est fait, il n'y a plus qu'à expliquer ce que fait Poe. J'ai pas besoin de...
Donc ça ne s'appelle pas, pour proprement parler, une passion, ça ?
C'est pour ça que je dis, au niveau conscient, c'est comme ça que ça s'est présenté. C'était quand même une passion, parce que j'avais la passion de la poésie et la passion de l'explication de la poésie. Je suis un enseignant. Et au fond, j'ai retrouvé les deux mariés chez Poe.
Mais tout de même, vous avez de la suite dans les idées, puisque Outre le livre dont nous allons parler ce soir, avec Peau jusqu'au bout de la prose, il y a eu l'autre livre, donc le premier en fait, que vous avez publié chez Klinsic en 1991, Peau dans le champ du vertige. Et puis, en plus de ça, vous avez dirigé le dossier Peau de la revue Europe, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7 ou 8 ans. Et vous êtes l'auteur, on le sait bien, de très nombreux articles sur cet écrivain qui semble ne pas avoir encore livré son dernier mot, pour vous.
Oh, pour moi, je ne pense pas que je pourrais m'exprimer beaucoup plus loin à son sujet. Mais c'est vrai qu'il m'a tenu en haleine pendant ces... combien ? Je ne sais pas s'il faut faire le compte. 20 ans, 25 ans plus, oui.
C'est pas mal.
C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Les deux livres sont très différents. Le premier, c'est ma thèse qui a été mise en livre. Et donc, c'est une étude structurale des contes. Donc, c'est ce que je vous expliquais un petit peu. Je prends les contes et j'en tire une structure de l'expérience romantique. Donc, c'est une démarche très définie, où les chapitres se succèdent de façon assez organisée, je dirais. Et puis, j'étais à la moitié de ce travail, j'avais fait la moitié des contes, tout en ayant vu la structure générale, mais j'étais vraiment entré dans le détail de la moitié des contes et de Reka. Je présentais ça à un directeur de thèse qui m'a dit « mais vous avez fini ?» Donc j'ai soutenu sur la moitié. Au fond, le Peau dans le champ du vertige, c'est la moitié de mon projet. Et puis longtemps après, Marc Chentier, un collègue de littérature américaine, m'a demandé un petit bouquin sur Peau que je n'ai jamais pu écrire parce que... Pour 125 pages, j'y suis pas arrivé. J'ai déjà fait en 3 colonnes de dictionnaire, mais en 125 pages, j'ai pas réussi.
Donc vous avez écrit ces 400 pages.
J'ai repiqué à la fois pour terminer, en un sens. C'est pour ça que j'insiste plus sur les contes policiers, par exemple, que je n'aborde pas dans le premier livre. Et puis aussi, j'en ai profité pour avoir une autre approche. J'étais plus en train de faire une thèse. Voilà.
Et au tout début de ce nouveau livre, vous dites que Peau est rarement lu à hauteur de son génie. Ouais. Mais ça, c'est un défaut auquel vous avez échappé.
Ah, justement, c'est une question piège, là, parce qu'évidemment, il y a une grande ambition de ma part de dire il n'a jamais été lu à la hauteur de son génie. Sous-entendu, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. J'essaye d'être à la hauteur.
C'est le frère spirituel de Baudelaire. C'est le maître proclamé de Mallarmé et de Valéry. Pour les trois, un guide, c'est pas rien.
Oui.
Qu'est-ce qui lui vaut ce statut ?
Je ne sais pas si ça lui vaut. En tout cas, l'histoire le dit. Je crois que ce qui lui vaut ce statut, c'est le fait que, pour revenir à l'idée qu'il est héritier du romantisme et qu'il en dégage les structures... C'est à peu près ce qu'ont fait Baudelaire, que je considère comme le vrai romantique, enfin le romantique classique, le romantique maîtrisé, c'est-à-dire Keats, si on veut, le Keats français. Mallarmé qui va au bout de ça, qui va vers une poésie de l'esprit, dépersonnalisée. Et puis Valéry qui ne croit plus à la poésie et qui arrive à la critique, qui arrive à l'analyse de l'esprit, du fonctionnement de l'esprit. Et donc cette démarche de ces trois mousquetaires, comme je les appelle, qui conduira au structuralisme. Et moi, j'arrive dans le structuralisme quand j'arrive à l'université dans les années 70. C'est le parcours de Poe.
Mais Baudelaire, Mallarmé, Valéry, ce sont trois Français. Il a donc fallu ce détour par la France pour que Poe soit véritablement reconnu.
C'est assez étonnant. Ça me paraît assez unique. On a vu d'autres cas, Faulkner qui a été reconnu par la France avant d'être reconnu par les États-Unis. Mais enfin, à ce point-là, je crois qu'il y a un phénomène Poe. Je dis ici ou là qu'il est exceptionnel. Je crois que s'il m'a tenu pendant 20 ans, c'est peut-être aussi pour ça. Je crois que c'est une destinée assez unique, une destinée de son œuvre. Ouais. Mais on peut remarquer aussi, moi je l'admire beaucoup pour ça, lui-même semble avoir préparé son arrivée en France. De son vivant, il n'y est jamais venu. Mais son héros intellectuel, c'est Dupin, c'est Le Grand, c'est-à-dire des Français.
Oui, des noms français qui apparaissent dans ces textes.
Voilà. Comme s'il faisait un appel du pied à la France.
Il faut dire que la reconnaissance s'est poursuivie jusque dans les années 70, ici, avec des gens comme Ricardou, par exemple,
oui.
Et avant lui, Lacan, pour ne pas parler de Bachelard.
Tout à fait. Ah oui, c'est une chaîne ininterrompue. Il y a une chaîne d'admiration, d'insémination presque, qui est ininterrompue de Baudelaire jusqu'à Lacan, jusqu'à... vous citiez Ricardou, évidemment.
Mmh.
Oui, oui. Et donc, on est dans le formalisme. Hein, et on est aussi avec Gérard Genette, qui a été le grand maître pour les universitaires, hein, le grand enseignant de la structure littéraire, de la forme littéraire. Ouais, ouais.
Et pour vous, ce détour valait le détour, si je puis dire.
Je suis dedans, modestement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun Américain qui aurait pu écrire mon livre. Je pense qu'il y a un certain nombre d'Américains qui aujourd'hui auraient pu écrire mon livre. Mais j'ai peut-être quand même ce petit avantage d'être sur les deux langues, d'être dans cette tradition depuis longtemps, donc il y a peut-être un petit plus. Mais c'est vrai quand même que c'est aussi lié au fait que Poe est quand même retourné dans son pays d'origine, depuis longtemps, hein, mais comme grand auteur depuis les années 60-70. Mmh. Et c'était lié aussi au fait qu'il y a tout ce qu'on a appelé la théorie, il y a toute la pensée... des sciences humaines françaises, qui a été beaucoup exporté aux États-Unis à cette époque-là. Donc il est rentré aux États-Unis dans les bagages de la valise diplomatique française.
Ouais. Ouais. Et en tout cas, Henri Justin, on peut penser que si vous avez écrit un deuxième livre sur Poe, qui est un gros livre quand même, hein, 400 grandes pages, c'est que vous estimez qu'en France même, il n'est pas assez lu ou pas assez bien lu et qu'il faut le faire lire.
Ah, je pense, oui. Il est encore très, très méconnu. Hein. Encore très, très méconnu. Je crois qu'il est surtout présenté au public français à travers les analyses comparatistes et à travers tout ce qui fait de Poe un auteur populaire. C'est-à-dire que c'est l'auteur fantastique, que c'est l'auteur qui inspire les films d'horreur, c'est toutes sortes de choses comme ça, où on lit Poe avec un petit sourire. Au fond, c'est un auteur de genre. Voilà. Et bon, je crois que c'est le sous-estimé.
Mmh. Ouais. Apparemment, votre édition préférée, c'est celle de la collection Bouquins de chez Robert Laffont.
Oui, oui.
Dû à Claude Richard.
Oui.
C'est là que vous avez puisé toutes vos citations.
Oui. Je l'ai pris comme livre de référence.
Ouais. Y compris les citations traduites par Baudelaire, mais à l'occasion, vous modifiez un peu les traductions, parce que Baudelaire n'était pas un bon traducteur.
c'était un des problèmes du livre. Encore une fois, je suis angliciste, c'est-à-dire toute ma réflexion sur Poe, elle est une réflexion à partir des textes anglais. Hein. Et le texte de Poe est bourré de jeux linguistiques, il tord la langue, ce qui fait d'ailleurs que les anglophones disent parfois qu'il écrit mal. C'est bourré d'intentions. Et quand je voulais faire une analyse et que je disais, bon, il faut que je cite Baudelaire, mais ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Donc, j'ai pris le parti de retoucher Baudelaire. C'est le grand geste iconoclaste. Et où je suis très reconnaissant à Gallimard, c'est que Olivier Salvatori a accepté tout de suite la démarche. C'était vraiment inespéré.
Mmh. Ouais. C'est-à-dire que quand vous étiez prof, si vous aviez eu une copie de M. Charles Baudelaire, une version, vous lui auriez mis une mauvaise note.
Comment répondre à ça? Objectivement, il y a des fautes, oui, il y a des fautes. Pour prendre un seul exemple qui est très caractéristique, le personnage de Dupin, le détective, Poe, nous fait une présentation de lui comme un amoureux de la nuit Et finalement, comme un drôle d'oiseau, avec son copain, là, ils ne sortent que la nuit. Le jour, ils ferment les volets. Puis quand la nuit est tombée, ils sortent. Et puis, ils se perdent dans la populeuse cité. C'est-à-dire que visiblement, ils vont dans les bas-fonds de Paris pour s'exciter mentalement. Et Poe dit, ils y trouvent les excitations mentales que l'observation tranquille peut offrir. C'est le voyeurisme. Et Baudelaire n'arrive pas à le lire. Et il écrit les excitations que l'observation tranquille ne peut pas offrir. Il introduit une négation. Bon, là, du point de vue d'un prof, pour répondre à votre question, du point de vue d'un professeur qui corrige une version, il y a un contresens manifeste.
Mais certains prétendent que les textes français de Baudelaire sont plus intéressants que les textes originaux de Poe.
Oui, ils sont plus psychologiques. Étant donné qu'il y a moins de jeu sur la langue, on est plus dans le drame psychologique du narrateur. Donc, du côté de l'émotion, Baudelaire est plus intéressant. Mais Poe fait autre chose.
Et vous?
Poe essaye de structurer l'espace mental. Donc, c'est autre chose.
Et vous avez commencé par là, vous avez commencé par lire Poe avant de lire Baudelaire.
Bien sûr, oui. Bon, finalement, je ne pourrais pas vous faire une petite causerie d'une heure sur comme si je n'avais lu que Baudelaire. Je veux dire, je vous parle du Pot de Baudelaire, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai jamais
Ah, mais
lu.
je ne
J'ai
vous
pas
l'ai pas
cette
demandé, hein.
j'ai pas non non mais j'ai pas cette expérience hein, d'avoir lu Baudelaire comme ça naïvement. Je m'y réfère.
Alors on peut dire, Henri Justin, que votre livre, Avec Poe jusqu'au bout de la prose, qui paraît chez Gallimard, tombe à pic, je n'ai pas dit au pic, hein, car il arrive en même temps que le 200e anniversaire de la naissance de Poe, qu'on n'a pas beaucoup commémoré, me semble-t-il. Hein. Il
Exact.
est né à Boston le 19 janvier 1809 et il est mort à Baltimore en 1849. Très jeune, donc 40 ans. Hein. C'est une vie d'ailleurs sur laquelle il n'y a pas grand-chose à raconter, puisque elle est faite surtout de son travail, d'un travail acharné et que vous dites même lumineux.
Oui, lumineux, me semble-t-il, hein, de mon point de vue, de lecteur. Je pense que lui, il a dû le vivre quand même, quand on voit les richesses de ses textes, il a dû le vivre dans une excitation extrême.
Julien Gracq disait qu'il s'était absenté de sa vie.
Je crois que c'est l'écrivain absolu et s'il s'est absenté de sa vie, vous savez quelle fin il a fait. On l'a retrouvé donc à Baltimore. Il habitait alors Richmond. Il allait faire quelques courses, enfin régler quelques affaires vers le nord. Il s'est arrêté à Baltimore. Et là, on perd sa trace totalement pendant 6 jours. On ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a retrouvé dans un bureau de vote, hébété d'alcool, portant des vêtements qui n'étaient pas les siens, des vêtements râpés, miteux, qui n'étaient pas les siens, un pantalon trop grand, etc. Et délirant, etc. Donc, il est mort 3 4 jours plus tard à l'hôpital. Donc, c'est vrai qu'il s'était absenté de sa vie depuis la mort de son épouse en 47. On peut dire qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Et puis, plus globalement, c'est vrai que bon, ça fait partie aussi de mon analyse. Il y a une forme d'impuissance affective chez lui qui fait que il est jamais totalement dans la vie. Je pense qu'il n'arrive jamais à aimer totalement une femme. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Il n'épouse pas la vie. Et c'est aussi pour ça qu'il met tout, au fond, comme ses personnages, comme Dupin, toute son affectivité reflue vers le cerveau et vers l'écriture. Mmh.
L'écriture, c'est quoi ? Ben, d'abord, ce sont des poèmes dans les premières années, oui. Avec trois recueils publiés en 1827, 1829 et 1831. Et après 1831, ils disparaissent au profit des contes, jusqu'à la publication du Corbeau en 1845. Mais alors, selon vous, Henri Justin, si Poe n'avait écrit que ses poèmes, il serait un écrivain mineur.
Je dis même, je crois, une curiosité littéraire. Oui, parce que les poèmes sont... On les connaît tous un petit peu. Enfin, les anglophones les apprennent à l'école. Hein. Mais enfin, ce n'est quand même pas c'est pas la plus grande poésie. Ça, c'est clair.
Mmh. Ouais. Donc le grand Poe, c'est dans les contes qu'il faut
le
chercher.
C'est certain.
Il en a écrit pas mal, hein.
70 à peu près, oui.
Et sur les 70, pas de médiocre.
Ah, il y a peut-être des contes qu'il y a longtemps que j'ai pas relus, qui sont quand même secondaires. Si, il y a quand même des grands contes, il y a que ceux que j'appelle les grands contes. Mais lui dirait que, à part un ou deux, il l'a dit quelque part, je crois que c'est dans la préface à son premier recueil, à part un ou deux, ils se valent tous. Simplement, il y a une différence de genre, il y a une différence d'intensité, une différence d'intention. Voilà.
Et votre thèse, c'est qu'en choisissant la prose, il savait où il allait, où il mettait les pieds.
Là aussi, ça fait partie des choses qui m'extasient. Je ne comprends pas que ce soit possible. Il écrit son premier conte en 31, donc il a combien ? 22 ans. Et tout est là. Tout est là, c'est l'histoire d'un homme qui le lendemain du mariage et qui attrape sa femme à la gorge. Bon, il y a une scène de ménage, visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et quand sa femme est sortie, il va dans la chambre, il a fouillé la chambre. Il cherche l'objet perdu de ses désirs dans la chambre nuptiale que sa femme vient de quitter. C'est le premier conte, ou le deuxième. Et voilà, et tout va se construire là-dessus. L'importance de la chambre, l'importance de la femme absente, de la femme morte. Mmh. La fouille de la chambre, les policiers déjà. C'est dans le deuxième conte.
Donc la narration.
Oui, absolument. Le choix d'un narrateur qui n'est pas lui, qui n'est pas Poe, qui est une émanation, qui est une exagération, qui est un pastiche de lui-même, mais qui n'est pas lui-même. Mmh. C'est là aussi où Baudelaire, en naturalisant la prose de Poe, en la rendant plus fluide, plus mainstream, si vous voulez, nous fait oublier cette distance entre les narrateurs, les personnages narrateurs, et l'écrivain qui est derrière, dont vous l'avez cité au début, qui fait le mort.
Mmh. Il y a une chose très belle que vous dites, enfin qui me plaît bien, c'est que Poe pousse la parole à bout.
C'est un extrémiste. C'est un extrémiste, j'ai mis ça aussi dans mon titre, au bout de la prose. Je crois que c'est certain, je cite aussi un moment Genette, il n'a pas toujours été aussi romantique, mais où il dit que la bibliothèque est un modèle de la spatialisation de la littérature et qu'à ce moment-là, la parole se fait silence, etc. Mmh. C'est cet extrémisme mystique, si on veut, hein, forme de mysticisme... littéraire, enfin, oui. Pas religieux, qui anime son travail. Oui.
Ça ne serait pas la bourse ou la vie, mais ça serait la littérature ou la vie.
Sûrement, sûrement. Il y a une très belle phrase dans une lettre à la personne auprès de laquelle il se confie le plus, parce qu'il pareil, même dans les lettres, il se confie peu. Et il lui dit, et c'est en 48, au moment de la ruée vers l'or, où il y a beaucoup de gens qui partent faire fortune en Californie. Il lui dit, tu sais, Thomas, finalement, la littérature est le seul métier qui soit digne d'un homme. C'est quelque chose.
Ouais. C'est donc un écrivain qui, avant peut-être d'être un écrivain fantastique, a été un écrivain d'anticipation, puisqu'il a préfiguré ce qu'on appellera un peu plus tard, dans les années 70, la mort de l'auteur.
Absolument. Absolument. Je crois qu'il est, beaucoup plus cela que, justement, écrivain, soit fantastique, même policier. Il a, on peut dire qu'il a inventé le roman, le récit policier. Mais enfin, ce n'est pas un écrivain, un auteur de genre, c'est un écrivain. Il écrit, je ne sais pas comment dire, son sujet est vraiment la littérature, est vraiment l'écriture. Ouais.
Ouais. Et le lecteur a du travail à faire.
Et le lecteur a du travail. Le lecteur a du travail. Parce que c'est codé, c'est entièrement codé, dans la mesure où celui qui nous parle est un narrateur manipulé par quelqu'un qui tient les ficelles et qui ne parle pas. Le lecteur n'a que la parole du narrateur. Pas dans tous les contes, ils ont 50 contes sur 70. Le lecteur n'a que la parole du narrateur qui est fausse. Donc il faut qu'il apprenne au second degré, il faut qu'il lise les signes pour arriver à du sens. Ouais.
Donc la lecture est un état d'alerte.
Absolument, une lecture détectrice, je dis parfois que c'est... Le premier détective, c'est le lecteur.
Vous dites que Poe travaille à créer une littérature à effet.
Je dis ça ?
Ouais. Page 101.
D'accord. Il y a une littérature à effet. Je ne vois pas dans quel contexte je dis ça. Le mot effet est important pour Poe parce que il a toute une théorie de l'effet. Et chez lui, c'est lié au fait qu'il refuse que la littérature dise quelque chose. La littérature n'est pas faite pour véhiculer des informations. Elle est faite pour déstabiliser une conscience. Et c'est peut-être pour ça.
C'est que la littérature a un effet car elle est productrice de quelque chose. Et la prose, précisément, a cet avantage sur la poésie qu'elle est capable d'une grande variété de modes.
Oui. Oui. Poe joue sur les deux tableaux, de choisir la prose qui va lui permettre, par exemple, en fin de carrière, d'imaginer les origines et la fin de l'univers, d'intégrer Newton, etc. Mais tout ce matériau qui peut être véhiculé par la prose, son but n'est pas là. Le but, c'est que ça produise un effet. Que ça produise un effet, c'est-à-dire que ça remue un lecteur. Et là, on retombe quand même sur la poésie, qui est d'abord émotion.
Et peut-être sur la structure dont vous parliez à propos de votre premier livre, mais qu'on retrouve évidemment ici.
Bien sûr.
L'effet structure l'espace imaginaire.
Oui, je crois en tout cas qu'il faut que, si on parle de structure, il faut que ce soit en étant à condition d'être quelqu'un que la structure émeut, au fond. Quelqu'un pour qui voir un cercle et voir un carré, c'est pas pareil, même dans son cœur, même dans son corps.
Hein. Mais là déjà, c'est la découpe d'un territoire
entre
la poésie et la prose.
C'est un petit peu c'est là où il y a toujours un moment où c'est difficile de parler de Poe, parce qu'il va toujours à un moment, il va faire une distinction avec l'idée ultime de faire coïncider les contraires. Donc tout le temps, toute sa vie, il va dire la prose et la poésie, ça n'a rien à voir. Mais au fond, son but à lui, c'est d'écrire des textes de prose qui gardent l'aimantation poétique. Il faut à la fois garder en tête l'idée que ce sont des contraires et que son ambition à lui, c'est de les faire coïncider. Mais les faire coïncider en tant que contraires. c'est ce qui fait un problème pour le commentateur qui est énorme. Je dis vers la fin, le poète est puissant. C'est vrai qu'à un moment, on suit, on dit bon, la prose, c'est le contraire de la poésie. On peut faire toute une liste de citations qui disent ça. Mais on est obligé de dire, bah oui, mais lui, il les met en contact. Mais justement, c'est ça, c'est le plus et le moins qu'on met en contact pour produire le courant électrique.
C'est une sorte d'accordeur.
Oui. Il crée du voltage.
Et c'est ce qui produit la fascination ?
Oui, il y a une fascination parce que... J'aime bien l'image électrique qu'il utilise. Il y a une différence de potentiel qui est réduite au maximum. C'est comme si vous mettez un... Oui, les deux pôles du plus et du moins, vous les rapprochez le plus possible. Ils résistent. Plus vous les rapprochez, plus ça résiste. Plus c'est dur. Et c'est ça la fascination. Parce que vous voyez bien un moment où ils devraient pouvoir être ensemble et vous seriez dans le repos éternel. Ce moment n'arrive jamais. Mais si vous voulez continuer à dire pauvre, il faut toujours essayer d'y arriver. Et donc, il y a cette fascination peut-être un peu masochiste qu'on trouve dans la lecture de pauvre.
Alors, on l'a présenté comme anticipant le structuralisme. Mmh. On pourrait dire aussi le textualisme, car sa patrie, c'est le texte. Il ne connaît que le texte.
Ouais. C'est même étonnant, il a beaucoup écrit quand même de théories littéraires. Et rien sur le contenu. Rien sur le contenu. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. L'important, c'est savoir comment vous structurez votre texte.
Et ce qui se passe dans le monde, l'histoire, la société
Il y fait écho, plus ou moins en le voulant, sans le vouloir. C'est vrai aussi que son matériau vient beaucoup des œuvres littéraires antérieures. Il fait beaucoup de recyclage de la tradition littéraire. Et puis, bien sûr, il y a quand même toute la situation américaine qui apparaît, mais en filigrane, en écho. Toute la polarité nord-sud, hein, on est avant la guerre de sécession. Lui venait des États du Sud quand même. Esclavagiste. On est en pleine... À partir de 1830, on est vraiment... Le Nord et le Sud commencent vraiment à s'affronter sur cette question, et il est au milieu de tout ça.
Et vous notez que c'est après 1830, c'est-à-dire au moment précis où il va s'engager dans la prose, que le clivage Nord-Sud fut consommé.
Exactement, oui. Consommé, c'est-à-dire que le Sud a décidé qu'il resterait esclavagiste. Voilà. Et donc le Nord est de plus en plus abolitionniste, et là, le conflit, enfin, le débat va s'envenimer jusqu'à la guerre qui va éclater en 63. Lui meurt en 49, donc il est avant, bien sûr, mais il est tout à fait dans cette période où le Nord et le Sud sont de plus en plus antagonistes. Et lui-même navigue entre le Nord et le Sud.
Alors, il y a un mot, Henri Justin, qu'on n'a pas beaucoup prononcé jusqu'à présent à propos d'Edgar Poe. C'est le mot « fantastique ». Et pourtant, c'est surtout comme ça qu'on le lit, c'est sur le mode du fantastique.
Ouais. Ça, je m'oppose à ça. Je crois, de fait, que c'est la lecture qui vient des comparatistes, qui vient de Baudelaire, qui est possible. Si on prend Ligeia, par exemple, ça se termine sur une hallucination. Mais enfin, on peut dire que le narrateur voit sa Ligeia perdue qui apparaît. Le fantastique supposerait que Poe ait créé un contexte réaliste dans lequel on se dit, c'est une apparition, c'est vrai, c'est faux, alors que Poe n'est jamais dans le réalisme. Et au contraire, il est toujours dans la parole peu fiable du narrateur. C'est pour ça que, pour moi, le narrateur un petit peu conscient sait depuis toujours que c'est une hallucination. Ça n'empêche pas qu'elle fonctionne. Mais je crois quand même que si on s'arrête là, on est sur une lecture assez faible. C'est tout. C'est une lecture qui existe, mais qui est possible, mais qui me paraît assez faible. Et Poe lui-même a toujours parlé contre le fantastique.
Pour vous, il est beaucoup plus l'inventeur d'un autre genre qui est le policier, le récit policier.
Alors ça, oui, il est l'inventeur. Mais un peu dans la même façon, comment dire... Je ne dirais pas qu'il a inventé le policier au sens où un jour il serait sorti avec quelque chose, il est présenté au concours Lépine, voilà, c'est le policier. Ce n'est pas comme ça que ça s'est présenté. Le policier a été en quelque sorte secrété par l'œuvre. Et si on prend les meurtres de la rue Morgue, qui est le premier récit policier qui a vraiment la forme du policier qui va devenir classique, 1841. C'est beaucoup plus que du policier. C'est un conte qui contient le policier. J'aime à dire que c'est la matrice du policier. Tout est là, mais il faut encore couper le cordon, il faut accoucher du policier. Ça, ce sera fait plus tard par les premières adaptations françaises en France, après par Gaboriau et finalement par Conan Doyle.
Alors, on pourrait parler aussi du lien avec la psychanalyse. Hein. Vous laissez entendre que même dans l'un de ses textes, Poe pourrait annoncer Freud.
Oui. Marie Bonaparte le dit aussi. Freud a fait une petite préface pour le livre de Marie Bonaparte. Il n'a pas dit que c'était faux. C'est dans le premier paragraphe du Chat Noir, où, en toutes lettres, Poe dit « Bon, moi, je vais vous raconter une histoire à laquelle je ne comprends rien, mais peut-être que derrière moi, plus tard, apparaîtra une intelligence plus tranquille, plus assagie, plus calme, qui saura relier tout ce que je vous raconte, en faire une chaîne d'événements qui se relient les uns les autres dans une succession de causes et d'effets. » Je crois de fait que ça annonce Freud, enfin bon, c'est une façon de parler. Mais rétrospectivement, on est bien obligé de penser que ça annonce Freud. Et Freud, inversement, je ne sais pas si je vais bien m'en rappeler maintenant, ça m'avait beaucoup frappé. Ah oui, c'est à propos de l'inquiétante étrangeté, où il dit « je vous en parle », c'est... En fait, moi, il y a très longtemps, Freud nous explique, il y a très longtemps que je ne l'ai pas senti. Mais enfin, je vous en parlais. Mais bon, moi non, ça me trouble pas. Alors, c'est tout à fait cette intelligence beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, qui va pouvoir... voilà. Et l'inquiétante étrangeté, c'est la première ligne du Chat Noir. Poe nous dit, je vais vous raconter une histoire qui est à la fois homely et wild. À la fois homely, c'est-à-dire qui est domestique, c'est homely, c'est heimlich, c'est vraiment le même terme que chez Freud, et wild, c'est-à-dire sauvage, ensemble. Voilà.
Avec Poe jusqu'au bout de la prose, l'essai d'Henri Justin est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Séverine Cassard, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.